Je vous propose qu'avant qu'on commence, on continue ce temps de silence. Parce que le Saint-Esprit parle. C'est nous qui avons parlé jusque-là. Et puis je vous propose qu'on l'écoute. Seigneur, on a prié que tu ouvres les yeux de nos cœurs pour qu'on soit capable de voir ce qu'on ne voit pas. Ce que toi tu vois, ce que toi tu fais. Partout où se trouve l'Esprit, tu agis. Et Seigneur, nous voulons voir où se trouve l'Esprit pour le rejoindre. Il se trouve qu'il est en nous. Tu es là, Saint-Esprit, au cœur même de notre corps, qui est devenu le temple du Saint-Esprit, ta maison, ta propriété. Nous ne nous appartenons plus. Nous nous sommes donnés à toi, nous sommes devenus ton corps, ta maison. Donne-nous de le vivre. De le vivre entre nous et de le vivre dans le monde, dans le nom de Jésus. Amen. J'étais très touché de chanter « Rédempteur du monde ». Je l'ai chanté quand j'étais jeune ado. On l'a chanté partout, en France, en Suisse, on l'a chanté dans la rue. On l'a chanté dans des endroits inimaginables. On l'a chanté à Pigalle. On a chanté sur le Trocadéro, on a chanté à la Riponne, ça fait tout de suite moins exotique. On a chanté « Rédempteur du monde », la plus belle nouvelle qui soit. Dieu rachète le monde, l'arrache des griffes du mal. Il prépare pour nous un autre monde délivré du mal. On l'a tellement oublié cette bonne nouvelle. Qu'on s'est habitué au mal aujourd'hui. On dit, bon, ben voilà, c'est dans l'ordre des choses. Mais non, si nous, nous perdons cet espoir fantastique qu'un autre monde vient et que nous pouvons déjà le vivre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle notre héritage, on l'a chanté. Vous vous rappelez ? On l'a chanté ce matin, on a parlé de notre héritage. Nous sommes les héritiers de ce monde qui vient. Il nous appartient. À nous de nous en saisir pour que le monde retrouve de l'espoir, se dise « Ah, le mal, ce n'est pas le point final de l'expérience humaine. Il faut s'en rappeler quand on perd ses pieds. Il faut s'en rappeler quand on est secoué par un tremblement de terre. Il faut s'en rappeler quand on perd son travail. Ou qu'on perd un être cher. Ou quand on perd sa santé. » On a tous vécu ces expériences-là, où on a tous des proches qui le vivent. Notre espérance incroyable et notre héritage, c'est qu'un autre monde vient et il a déjà envahi celui-là. La preuve, il vit en nous, il bat dans nos poitrines. Alors, la question s'est portée par cette espérance-là, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans ce monde ? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Quels sont les fruits qu'il attend de chacun de nous? Ça va? Je vous sens déjà écrasé. J'ai à peine commencé. Vous êtes là? On l'a dit, hein? Ouvre les yeux de mon cœur. Je prie ce matin que Dieu, il ouvre nos yeux, qu'on soit capable de voir le monde tel qu'il le voit lui, avec son espérance incroyable. Il n'a pas abandonné le monde. C'est à nous de le dire. Et j'ai été très, très impressionné par le travail de nos prédécesseurs, qui a été répertorié dans ce livre-là, dans un autre aussi, qui est sorti aux éditions Labor et Fides. C'est notre histoire qui se trouve dedans. C'est trois chercheurs, de l'Université de Lausanne, de l'Université de Strasbourg, qui disent, voilà ce que sont les églises libres. Ces églises qui, au 19e siècle, ont dit, c'est inacceptable que l'État ait à dire quelque chose dans les affaires de l'Église. Non, Nous ne voulons pas que l'État décide qui sera pasteur chez nous et ce qu'on doit prêcher en chair. C'est comme ça que sont nées les églises libres, milieu du 19e siècle. Et en fait, ils ont créé une école de théologie, une école privée, l'école Vinet. Et dans ces deux lieux-là, ils ont formé les magistrats, les hommes d'affaires, les banquiers, les politiciens du canton de Vaud, de Neuchâtel et de Genève. Ils ont bousculé le paysage vaudois. Et aujourd'hui, on est leurs héritiers. Et c'était nos frères et nos sœurs dans la foi. Ils ont été de tous les combats. Ils ont été à l'avant-garde de tous les combats de leur temps. Ils ont présidé même ces associations internationales. Parce qu'ils étaient doués, parce qu'ils étaient bien formés. Ils ont lutté pour le suffrage féminin. C'est grâce à eux, mesdames, que vous pouvez voter aujourd'hui. Et on en est bien heureux. Merci à eux. Ils ont lutté contre l'esclavage. Ils ont participé à l'abolition de l'esclavage. Heureusement, ça défigurait l'Évangile. Ça maltraitait des hommes, inacceptable. Ils ont été parmi les premiers qui ont milité pour le service civil. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui disent merci à vous. Ça, c'est notre histoire. Voici les fruits qu'ils ont portés. Nous en sommes les héritiers à lire. C'est hyper inspirant que des académiciens prennent le temps d'étudier l'histoire de nos églises évangéliques. Alors, la question, c'est qu'est-ce que Dieu attend de nous? Alors, je prie qu'on ait un cœur ouvert pour que ça puisse couler dans nos cœurs, que le Saint-Esprit dise « Moi, j'aimerais bien te dire ce que j'attends de toi, ce que j'aimerais faire avec toi dans ce monde. Parce que moi, je me réjouis comme un fou !» nous dit l'Esprit en nous. Enthousiasme. Laissons-nous gagner par l'enthousiasme. Au sens littéral, c'est « en théos ». Dieu dedans. Laissons l'Esprit de Dieu nous enthousiasmer, nous parler de notre héritage, celui que l'on doit saisir dès maintenant pour le faire advenir sur cette terre, au travers de notre corps. L'Esprit en nous utilise notre corps comme son corps pour réaliser ce royaume dès aujourd'hui, pour que vous et moi nous entrions dans notre héritage, la chose pour laquelle nous sommes faites. Ça va ? Alors, je vous propose qu'on ouvre nos Bibles et qu'on l'ouvre dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21. On aurait pu prendre plein d'autres passages, mais celui-là, il m'a intrigué. Avec quelques jeunes, on a lancé ce qu'on appelle BeQuest, se questionner sur toutes les choses qui nous échappent dans la Bible. Et ça, c'en était une. Chapitre 21, au verset 18, je lis. Matthieu 21, 18, le matin, en retournant à la ville, il n'y était pas, il eut faim, ce qui arrive. Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles et il dit, qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. À cette vue, les disciples furent dans l'admiration et dirent « Mais comment ce figuier a-t-il séché en un instant ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, celle-là qu'on voit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » On dit « Amen à quoi ?» Ça, c'est la question. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte ? J'ai l'impression d'être dans David Copperfield qui fait disparaître la statue de la liberté. Ça ressemble pas à Jésus, ça. De se dire « Bon, je fais un tour de passe-passe, puis les gens vont être dans l'admiration. » C'est rare qu'il fasse ça, Jésus, vous êtes d'accord ? Il fait jamais rien gratuitement. En tout cas, pas pour épater la galerie. Donc, il y a quelque chose derrière qui nous échappe. Et je vous propose qu'on fasse le chemin ensemble. Ça va ? On se dit, mais comment on aborde un texte comme ça, où on se dit, Saint-Esprit, tu es en train de me dire quelque chose là, tu ne vas pas me lâcher. Et effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà ? On sait qu'il s'agit d'un figuier, on va commencer par ça. Alors, on prend notre dictionnaire biblique et on cherche figuier. Et on se rend compte que le figuier, c'est le symbole du peuple d'Israël. Dieu dit du figuier, tu es mon peuple. Et de ton fruit, c'est le fruit que j'attends de toi. On se dit, ah, intéressant. Jésus parle d'Israël. Au travers de cet épisode du figuier, il dit, j'attends du fruit d'Israël. Je l'attends depuis longtemps. Mais là, il ne vient pas. Alors cette stérilité-là, je ne peux pas m'en satisfaire. Elle est inacceptable. Premier point. Bon. Après, on se dit, qu'est-ce qu'on sait d'autre ? L'histoire de la montagne, elle nous échappe, on la reprendra plus tard. Ce qu'il faut faire, c'est regarder le contexte. Qu'est-ce que Jésus dit ? On va un peu plus loin. Parabole des deux fils. On la connaît ? Il y a celui qui dit, mais bien sûr, papa, et qui fait rien. Puis il y a ceux qui disent non, non, papa, non, et qui le fait quand même. On attend beaucoup du premier, mais il n'y a rien qui vient. Alors il y a un second qui lui dit non, ben non, ça ne m'intéresse pas, et qui le fait quand même. Et puis vous avez la parabole des vignerons, celle-là, elle est affreuse. On se dit comment c'est possible ? C'est inimaginable de se voir confier une vigne. Et puis de se dire un jour, mais finalement, le fruit de cette vigne, c'est pas si mal, on peut en faire un beau bénéfice. Donc le propriétaire, alors le propriétaire, il envoie des ouvriers et il les maltraite plusieurs fois. Et il se dit, mais quand même, mon fils, ils vont pas lui faire de mal, le fils, l'héritier. Alors il envoie son propre fils. Et les vignerons, tellement, ils ont perdu le nord, qu'ils maltraitent le fils et le mettent à mort. Mais qu'est-ce que le propriétaire ne va pas faire envers ces mauvais gérants ? Et les pharisiens disent, ben, il va tout détruire, il va confier la vigne à quelqu'un d'autre. Le fruit qu'il attend de cette vigne n'est pas venu. Alors il va ne pas se satisfaire de cette situation. Il va intervenir. Il va faire quelque chose pour que ça change, pour que le fruit attendu de son figuier, de sa vigne, de ses fils et de ses filles, ils viennent. Ça va ? Ok. Pour le figuier, c'est pas trop mal. On comprend plus ou moins, au travers du contexte, ce que Jésus veut dire. Donc il ne l'a pas fait gratuitement. Et puis on se dit, ben, le contexte, c'est bien sûr après, mais qu'est-ce qui se trouve avant ? Alors, jetons un coup d'œil au texte qui se trouve juste avant. Il faut relever quelques détails. Il se trouve dans le temple, et là c'est un des passages qui doit nous intriguer le plus. Celui-là, il ne doit jamais nous paraître banal. C'est la seule fois où Jésus se fâche tout rouge. Vraiment fort. Là on se dit, il a perdu les pédales. Il y aurait de quoi. Il faut l'avouer. Mais Jésus ne fait jamais rien par hasard. Il a une intention derrière. Et surtout, Matthieu nous dit, mais arrêtez-vous là. Parce qu'il se passe quelque chose d'important. Jésus entre dans le temple. Et là, il y a les vendeurs, les marchands. Et il dit ceci. Alors, il dit pas. Enfin, avant de dire quelque chose, il passe à l'action. Il prend un fouet et il met de l'ordre. Il n'y a plus rien qui tient debout. Tout est à terre. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. En quoi ce texte, en quoi cet épisode-là, il rejoint ce qu'on vient de dire ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Qu'est-ce qu'il est attendu du temple ? Allez-y. La prière. C'est le lieu où on peut entendre Dieu et y répondre, comme ce matin. C'est le lieu où nos yeux s'ouvrent sur le monde et sur nous-mêmes. C'est le lieu où la lumière se fait à l'intérieur. On ne doit pas repartir les mêmes, ce n'est pas possible. Pas en écoutant la parole de Dieu. À chaque fois, on doit pouvoir y répondre, dire « j'ai pas tout compris, mais éclaire-moi, ouvre mes yeux, que je grandisse, que je devienne un meilleur fils dans ta maison, un meilleur gestionnaire de tes biens. » Un meilleur gardien de ce monde. Le lieu de la prière, le lieu où on entend la parole de Dieu, avec suffisamment de silence, parce qu'il y a du bruit tout le temps, partout, y compris à l'intérieur. Et ce bruit-là, si on ne fait rien, il va nous envahir. Le temple comme le lieu où Dieu nous attend, et il attend nos cœurs. Et il attend de pouvoir nous parler. Et non seulement il attend de pouvoir nous parler, mais Jésus dit, une fois que vous m'avez entendu, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Vous êtes censé mettre en pratique, c'est littéralement, c'est dire, rendez cette parole réelle. Parce que c'est qu'une parole, ça ne pourrait être que du vent, non. C'est du souffle, cette parole-là, elle est censée devenir réelle dans ce monde. Et comment le faire sinon au travers de notre corps que Dieu a racheté pour que cette parole ne soit plus défigurée quand elle est mise en œuvre. Quand Dieu parle, c'est qu'il a un projet pour ce monde au travers de nous. Dieu sauve le monde au travers de chacun de nous. Pas uniquement pour ce monde à venir, mais pour le monde présent. Ça, c'est notre héritage. Quand cette parole nous rejoint, le but de cette parole, c'est qu'elle devienne réelle dans ce monde. Et la seule chose qui nous est utile pour la mettre en œuvre, pour qu'elle soit concrète, que les gens puissent la voir, la toucher, la sentir, c'est qu'on la rende réelle au travers du corps. C'est pour ça que pour un juif, le monde d'après ne les intéresse pas. L'Ancien Testament, vous trouvez très peu de passages sur le monde d'après ou sur le monde des morts. Parce que quand on est mort, on n'a plus son corps. On ne peut plus mettre en œuvre cette parole qui nous est donnée dans le temple, qui est devenu notre propre corps. Vous voyez les liens? Non. Si, quand même, un peu. Ça, c'est clair. Bon, on a quelques éléments en main. Mais pourquoi une caverne de voleurs, de brigands, de mécréants? Alors là, on se dit... Comment je vais m'éclairer dans cette situation? Alors, il se trouve que la plupart du temps, quand vous avez une parole comme ça, elle figure quelque part dans l'Ancien Testament. Ça va? Alors, on va vérifier. Est-ce que quelqu'un dans les petites notes à côté du passage, c'est très utile, est-ce qu'il y a une référence dans l'Ancien Testament? Oui? Allez-y un peu, allez-y. Oui ou non? Oui, alors, c'est quoi? Ah, Jérémie 7. Aussi, Jérémie 7. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dans Jérémie. Super. Il y en a qui suivent. Jérémie 7. Bon, c'est tout bête, hein. C'est des trucs qu'il faut utiliser tout le temps. C'est comme ça que ça se passe. Jérémie 7. Bon, on va se prendre une grande claque dans la figure. Jérémie 7 nous dit ceci. On va faire des petits sauts de puce parce que sinon ça sera trop long. Verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies. On n'est pas des réformés, on est des protestants. Ça tombe bien. Réformez vos voies et vos agissements, et je vous laisserai demeurer en ce lieu. Qu'est-ce que c'est que ce lieu? Ne vous confiez pas en des paroles trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. C'est pas moi qui ajoute, hein. C'est vraiment trois fois. Si vraiment vous réformez vos voies et vos agissements, si vraiment vous faites droit aux uns et aux autres, si vous ne trichez pas dans votre business, si vous n'opprimez pas l'immigrant, ni l'orphelin, ni la veuve. Autrement dit, dans tout l'Ancien Testament, dans tout le Nouveau Testament, ces trois figures-là, c'est la figure du petit, de celui qui est humble, de celui que vous et moi, nous devons devenir. Celui qui n'attend plus rien de ce monde, parce qu'il est hors du filet social, et il attend tout de cet autre monde qui vient. Si vous ne faites pas droit à ces gens-là, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent et si vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux, pour votre malheur, Ne vous laissez pas asservir par d'autres dieux. C'est notre prière quotidienne. Ne nous soumets pas à ce qui nous tente. Ne permets pas qu'on soit soumis à nos ennemis, à nos idoles. Délivre-nous du mal. Par pitié, ne nous livre pas à nos idoles. En d'autres termes, ne nous envoie pas en exil. Alors, je vous laisserai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, qui est votre héritage, en d'autres termes, d'éternité en éternité. Mais voici que vous vous confiez en des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi ? Voler, commettre des meurtres et des adultères, faire de faux serments, offrir de l'encens à Baal, vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous placer devant moi. Toutes ces choses-là, elles se passent dans le quotidien. Dans notre lieu d'habitation, dans notre travail. Dans le lieu où on passe toutes nos journées. Et puis, il y a ce moment où on vient le dimanche, le samedi en l'occurrence. Puis, vous venez vous placer devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, nous sommes des hommes libres, nous ne sommes asservis par personne. Et c'est afin de commettre toutes ces horreurs. Est-elle à vos yeux une caverne de brigands, ma maison ? Comment c'est possible d'avoir un si grand décalage entre la semaine et le moment où on se retrouve devant lui ? Comment c'est possible qu'au lieu de ce que Dieu attend de nous, nous fassions exactement l'inverse ? Et là, tout le monde, tous, moi y compris, on se dit, mais on n'est pas si mauvais que ça. C'est notre premier réflexe, c'est notre façon de nous rassurer. Et pourtant, ce matin, on a pris le risque de voir qui on est vraiment, en disant à Dieu, ouvre les yeux de mon cœur, pour que je sois capable de voir ce qui en moi te défigure, me joue des tours tout le temps, me fait me sentir tellement mal, me rend infiniment triste et tellement désespéré de moi-même. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi dans ce monde ? Comment tu peux transformer ce monde alors que moi-même, je peine à l'être ? Alors que le Seigneur nous illumine, et il le fait très souvent au travers de notre épouse, au travers de mon époux, à chaque fois que le Saint-Esprit nous dit « Voilà qui tu es », que nous, au lieu de rentrer dans le cadre et dire « Pas du tout !» Mais comment ça a pu venir ? Comment tu peux imaginer que... Et toi d'abord, hein ? Madame, monsieur se permet de... Et puis lui alors ? Que d'une manière ou d'une autre, on saisisse toutes ces occasions pour qu'on soit dévoilé à nous-mêmes, pour que jamais on ignore ce qui en nous encore défigure Dieu. Défigure le corps que nous sommes. Défigure sa famille. Et défigure toutes les œuvres que nous pouvons, tous les fruits qui sont mauvais au final. Personne ne peut y reconnaître Dieu. Personne ne peut y reconnaître le Créateur. C'est évident pour tout le monde. On se dit, non, d'accord, ça sonne bien, mais il y a quelque chose dedans. Il y a un ver dans la pomme. Non, ça sonne faux. Parce qu'en nous, le filtre, il est tout sale. Il a besoin d'être nettoyé. Alors à chaque fois que quelqu'un nous fait une remarque, respirons et disons-nous, Saint-Esprit, est-ce que tu es en train de me dire quelque chose ? Quelquefois, c'est juste pour nous faire du mal. Alors ces fois-là que le Saint-Esprit nous inspire en disant, merci beaucoup d'avoir pris autant de mal pour me faire du mal. Et puis d'autres fois, et la plupart du temps c'est le cas, c'est le Saint-Esprit qui nous veut du bien. Verset 15, petit saut de puce. C'est le final. Même le verset 14. Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, en laquelle vous vous confiez, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. C'est la destruction. Je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la descendance d'Éphraïm, le royaume du Nord, qui avait déjà été déporté à cette époque-là. Ils sont partis en exil. Parce que le temple, qui est le cœur de la vie juive, le cœur même du monde, ce cœur-là, il était malade. Il souffrait d'insuffisance cardiaque. Il frôlait la crise cardiaque. Ce cœur qui est censé pulser la vie dans tous les membres du corps, dans tous les membres de la société, qui est censé drainer toutes les toxines vers le poumon ou vers les reins. Ce cœur qui est censé aussi protéger, réparer, qui porte les globules blancs jusqu'aux endroits qui souffrent. Ce cœur qui est censé équilibrer les choses, balancer, réguler la température. Ce cœur-là, il est malade, il ne fait plus son travail. Il va s'éteindre. Et Jésus dit, je ne peux pas m'en satisfaire. Dieu dit, je ne peux pas m'en satisfaire. J'attends de ce cœur qu'il irrigue le monde, qu'il transforme le monde, qu'il fasse venir ici-bas ce monde à venir. Et je le fais au travers de vous, au travers de ce cœur qui bat. Nous sommes devenus ce temple et de nos cœurs, de nos corps doivent jaillir ces fleuves d'eau vive qui apportent la guérison aux nations, la guérison à la terre, la guérison à ceux qui sont petits et qui souffrent, la guérison aux familles. Voilà ce que Dieu veut faire dans son cœur, dans son temple, dans son corps. Et voilà pourquoi il ne peut pas s'en satisfaire. Voilà pourquoi il s'est tellement réjoui de nos frères et de nos sœurs du 19e siècle. Voilà pourquoi il a ouvert un chemin extraordinaire pour eux. Jusqu'au moment où, au tournant du 20e siècle, le communisme a débarqué. Et dans tous les rapports de nos églises libres, vous allez trouver ces traces. Oui, mais en fait, les communistes, ils s'occupent des pauvres, ceux vers qui Jésus nous appelle. Est-ce qu'on devrait se joindre à eux? Mais non, ils sont athées, c'est du communisme. Et dans ces milieux-là, beaucoup de troubles. Vous avez le capitalisme qui débarque, les machines. Et en fait, dans nos églises, vous trouviez les gens les plus fortunés, ce qui est peut-être encore le cas aujourd'hui. Ou qui est devenu le cas aujourd'hui. Les gens les plus aisés, les bourgeois. Et en fait, ils se disaient, oui, mais en même temps, si je veux être dans l'air du temps, il faut que, d'une manière ou d'une autre, je capitalise et que j'investisse au lieu de redistribuer. Le capitalisme. Le communisme et le capitalisme, ils ont promis le bonheur aux hommes sur cette terre. N'attendez plus le ciel. C'est maintenant qu'on doit saisir le bonheur. Et puis vous avez le scientisme, utiliser la science pour combattre le pouvoir de l'Église et pour dévaloriser Dieu. Et puis vous aviez les meilleurs scientifiques dans nos milieux. Ils étaient souvent très croyants. Et vous avez l'étatisme, le fait que l'État devienne le prescripteur et le pourvoyeur de nos sociétés moderne. Devant le communisme, ils ont dit « il faut qu'on crée l'État social ». Ils ont appelé ça l'État-providence. La providence, c'est l'action de Dieu dans le monde. L'État dit « appelez-moi Dieu ». Ça n'était jamais arrivé dans toute l'histoire du monde. Bourdieu dira « c'est la pensée d'État ». Aujourd'hui, on pense que c'est normal. Ça n'a jamais été comme ça dans toute l'histoire de l'humanité. Jamais l'État n'avait pris autant de place. Et ces quatre forces-là se sont conjuguées pour dire « on va faire le bonheur des hommes dès maintenant ». Et les chrétiens se sont dit « on vous laisse ce monde-là ». On a été tellement bousculés au tournant du XXe siècle qu'on s'est dit « nous, on va se concentrer sur le ciel, l'après, et on vous laisse la terre ». Mais qu'en est-il du communisme aujourd'hui? Qu'en est-il du capitalisme aujourd'hui? Il est attaqué de toutes parts. Ça a été un modèle extrêmement destructeur à bien des égards, même s'il a apporté beaucoup de bonnes choses avec lui également. Qu'en est-il du scientisme? Je ne sais pas si vous avez lu le livre « Dieu, la science, l'épreuve », mais il nous montre très bien que la science a changé de côté. qu'aujourd'hui, l'idée d'un monde qui a été créé, tellement il était bien fait, bien pensé, que le contraire paraît improbable. Et puis vous avez l'étatisme, l'État qui, aujourd'hui, se craquelle de toutes parts et dit « je ne peux pas répondre à tous les besoins ». Ces idéologies-là qui promettaient le bonheur aux hommes, elles se fissurent aujourd'hui. Est-ce que pour vous et pour moi, ce n'est pas le moment de retrouver le chemin de la société, pas pour la dominer? Vous avez vu comme moi les trois émissions d'Arte sur les évangéliques à la conquête du monde. Ce n'est pas le pouvoir qu'on cherche. On sait bien, vous et moi, qui détient le pouvoir et à qui on obéit. On ne peut faire obéir personne, sinon volontairement. Personne ne se soumettra à Dieu en les forçant. Mais Jésus nous a ouvert la voie, il a dit, les fruits que vous allez porter dans le monde, ils vont nourrir le monde, ils vont enchanter ce monde, ils vont les amener vers moi. Revenons à notre texte de Matthieu, et on termine avec une histoire. Donc, le figuier, on comprend, Dieu attend des fruits de nous. Mais ni dans sa vie, ni dans le figuier, ni dans ses fils, ni même dans le temple. Il ne trouve ces fruits-là, au contraire, il ne trouve que des brigands. Mais alors la montagne. Mais pourquoi une montagne? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Et puis la mer, ah la mer, dictionnaire biblique, la mer, le lieu du chaos, du danger, des forces hostiles, comme celle du dragon qui monte de la mer. Ça va? La mer, c'est l'image de l'exil. Quand on est envoyé en exil, on trouve le chaos, le danger, et on est livré aux forces ennemies, hostiles. Cette montagne qui est jetée dans la mer, qu'est-ce que c'est? Jésus revient de Béthanie, 2,5 km de Jérusalem. Mais vous devez passer le mont des Oliviers. Donc Jésus est en chemin, nous dit le texte. Il va vers la ville, vers Jérusalem. En chemin, il trouve le figuier. Peut-être qu'il était sur le mont des Oliviers quand vous êtes là. Quelle est la montagne que vous voyez en face de vous? Le mont du Temple. Et il dit à ses disciples, cette montagne-là, si vous lui dites « jette-toi dans le chaos, pars en exil », elle le fera. Et dans la tête de tout le monde, Jérémie 7 et tellement d'autres textes bibliques reviennent en surface. Comment ça? On revient à peine de l'exil. Dieu n'est même pas encore revenu parmi nous. Et on repart. Ce n'est pas une menace que Jésus donne. Ce n'est pas une malédiction qui nous appelle à donner. Il nous rappelle chacun, à chacun de nous, qu'on ne peut pas se satisfaire de la stérilité ou d'un cœur malade à mourir. Il nous appelle à entrer dans notre héritage, à l'image de nos pères dans la foi, à bouleverser ce monde au travers de cette prière intérieure où Dieu nous inspire. Et c'est ce que j'ai rencontré avec M. Euzé, Thierry Euzé, qui est le référent du canton pour la Fondation Morija, de laquelle je suis le président. Et je l'ai eu au téléphone une première fois. C'était le nouveau référent de Morija. Et puis à cette époque-là, on était vraiment gravement en difficulté. On perdait beaucoup d'argent et on avait peu de perspectives d'avenir. Le canton voulait même fermer notre institution. Et j'avais réussi avec son prédécesseur, qui était une dame, de trouver au moins un terrain d'entente pour qu'il ferme pas l'institution. Et puis voilà que j'ai un nouveau référent. Et quand je l'ai au téléphone, il me dit « Bonjour Monsieur Crelier, alors sachez tout de suite que je me suis renseigné sur vous. » Oh, je me suis dit « Le communisme n'est pas vraiment terminé, je suis tombé sur un agent du KGB. » Et il me fait « Mais laissez-moi juste... changer de bureau et je vous reprends après. » Il passe dans l'autre bureau et il me dit « Monsieur Crelier, en fait, j'ai réalisé en étudiant Morija que mon père est venu prêcher à Morija. Il était pasteur. Et moi, j'ai été missionnaire en Afrique. J'ai aimé ça. Je suis pasteur. Et puis après, j'ai dirigé des hôtels de luxe dans le groupe Boaz. C'était difficile, mais j'ai aimé ça. Et un jour, Dieu m'a dit, tu quittes ton poste et tu deviens fonctionnaire. Elle a dit, non, c'est pas possible. Je vais m'ennuyer gravement. Et effectivement, il s'est ennuyé gravement. Un homme tellement talentueux, Seigneur, mais pourquoi cette parole, elle m'amène là? C'est pas possible. Et il a dit, quand j'ai vu votre nom sur la liste, ça a illuminé ma journée. Ça m'a donné une perspective d'avenir. Je suis là pour vous aider. On va y arriver. Il a dit, voici mon numéro professionnel et voici mon numéro privé. Peu importe l'heure, si vous avez besoin de mon aide, appelez-moi. Il a été pour nous ce cœur qui a irrigué toutes les parties de notre institution et de notre personnel. Il a éliminé les toxines, tout ce qui gênait, tout ce qui n'était pas glorieux, tout ce qui devait disparaître. Il nous a aidés à l'ôter, à le purger. Et puis il nous a aidés à nous protéger. Il a fait ce rôle de cœur. Il nous a amené de l'équilibre dans notre écosystème. Et puis un jour, c'était l'inverse. Il a perdu sa fille d'un cancer de la langue. Elle avait 30 ans. Beaucoup trop jeune. Et puis on a eu ce papa quelques mois après. Et puis on lui a posé la question, le directeur de Morija et moi-même, on était les trois. Et puis je lui ai dit, alors comment tu vas? Il a dit, je vais pleurer. De tristesse, c'est sûr, mais surtout parce que je suis tellement fier de ma fille jusqu'au bout. Elle a illuminé l'hôpital de cette présence de Dieu. Elle a encouragé ceux qui venaient la voir en disant, mais Dieu, il est là. Et Dieu, il n'a pas terminé son travail, ni en moi, ni en vous. Ce sera certainement plus court pour moi, mais Dieu est là. Il est la source de l'espérance de ce monde. Et cette espérance, elle brille en nous. On est fait pour ça. C'est notre travail. C'est notre raison d'être ici-bas. Elle a dit, je suis fier de ma fille. Elle a brillé jusqu'au bout. On a passé une heure à pleurer, tous les trois. On était tristes, mais on était émerveillés de ce que Dieu fait au cœur même de la misère de ce monde. On a prié pour lui. On a été pour lui ce cœur. On lui a donné des paroles. On lui a permis d'enlever cette tristesse tellement lourde, de la partager, d'ôter cette toxine intérieure, de retrouver l'équilibre à l'intérieur, de le protéger de l'amertume qui guettait. Puis après, on a travaillé. Et c'est grâce à lui que Morija se porte bien aujourd'hui, que le canton peut dire, on aime votre travail, et non seulement on l'aime, mais on veut qu'il se développe. Et c'est à grâce à des gens qui, dans le lieu où ils sont, dans leur lieu de travail, dans leur voisinage, ils jouent ce rôle du cœur qui pulse et qui jamais ne se contente ni de la stérilité, ni d'un cœur malade à mourir. Que Dieu nous vienne en aide. Je vous invite à prier. Merci Saint-Esprit de vivre en nous, d'être Dieu lui-même ici-bas. Tu n'as pas abandonné le monde, nous en sommes la preuve. À Hiroshima, tu y étais. Tu étais même à Auschwitz. Tu étais dans le tremblement de terre en Syrie. Tu étais là dans tous les massacres du monde, dans toutes les persécutions du monde. Parce que dans tous ces lieux, il y avait au moins un chrétien, une chrétienne, qui est la présence même de Dieu sur cette terre, qui est le temple, qui pulse la vie partout où il va. Le lieu de la prière où on peut t'entendre. Et je prie ce matin que tu nous inspires pour notre travail, notre lieu professionnel. Que nous ne nous contentions pas de la stérilité, ni d'un cœur malade, mais que, inspiré par toi, Dieu fait chair, Dieu en nous, nous puissions apporter les réponses dont ce monde a besoin, du moins prendre notre part, y participer. Nous ne sommes pas les seuls. Tu as placé sur cette terre des hommes et des femmes de bonne volonté, brillants, aimants, intelligents. Donne-nous de faire notre part ici-bas, d'être les mains et les pieds du Christ, d'annoncer cette bonne nouvelle pour les plus pauvres, pour les petits en particulier, mais pour tous les autres et pour le cosmos. Tu as tellement aimé le monde, le cosmos, que tu as donné ton Fils. Donne-nous d'être obéissants, d'être ton figuier, ta vigne, ton fils, ta fille, ton temple. Dans le nom de Jésus. Amen.